Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
On ne dit pas « j'aime pas tant qu'on n'a pas goûté », me disait ma mamie. Lui a goûté à son siècle et tout ce qui allait avec, mais il ne l'a pas aimé. Stéphane Bern nous raconte Gustave Flaubert, l'anti-moderne devenu pourtant le fondateur du roman moderne.
Connaissez-vous Saint Polycarpe, Mathieu ?
Le dieu des poissons, certainement.
Non, il fut évêque au IIe siècle de notre ère, mort en martyr sous le règne de l'empereur romain Marc Aurèle. Mais pourquoi donc vous parlez aujourd'hui de ce vénérable persécuté ? C'est que Saint Polycarpe fut célébré, même choisi comme saint patron, par le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, l'écrivain Gustave Flaubert. Les accointances ne sont pas à trouver dans des questions de foi. Le romancier, je le rappelle, était farouchement anticlérical. Mais dans un certain rapport au monde, Gustave Flaubert fait sienne la plainte que Polycarpe avait coutume de lâcher face à ses contemporains. Dans quel siècle, mon Dieu, m'avez-vous fait naître ? En effet, au-delà d'avoir bousculé l'art romanesque, Flaubert avait un problème avec son époque et passa son temps à maudire son siècle tout en s'appliquant à en décrire les ridicules. Né en 1821 et mort en 1880, Flaubert a traversé le 19e siècle en misanthrope affirmé, faisant toujours preuve d'un certain pessimisme face à son temps. Son œuvre, et surtout sa très riche correspondance, donnent à voir un homme bien souvent accablé par le non-sens du monde. Ce grand idiot qui tourne depuis tant de siècles dans l'espace sans faire un pas, et qui hurle et qui bave, et qui se déchire lui-même, déplore-t-il, le vague à l'âme dès ses 17 ans. Sa jeunesse normande et bourgeoise, boudinée de cadres et de règles, ne l'a certainement pas aidé. Poussé vers un destin tout tracé de petits notables, comme Frédéric Moreau, son héros désenchanté du roman « L'éducation sentimentale », Flaubert monte en 1841 à Paris pour mollement échouer dans ses études de droit. En 1844, une crise d'épilepsie convainc ses parents qu'il a besoin de repos. Il revient donc dans sa Normandie natale. La mort du père, 2 ans plus tard, laisse à Gustave une confortable rente pour s'adonner à la seule chose qui vaille à ses yeux, l'écriture. L'écriture qu'il pratique depuis tout jeune, d'abord portée par le romantisme, puis dépassant le lyrisme du sentiment, par la recherche permanente du beau, du vrai. Le reste ne l'intéresse pas. La propriété familiale de Croisset, en bord de Seine, à quelques encablures de Rouen, sera toute sa vie son refuge, le trou dans lequel il se retire pour n'avoir rien de commun avec ses semblables, comme il l'écrit à sa maîtresse et poétesse Louise Collet. Ses postures et lamentations contre ses contemporains noircissent d'innombrables lettres, mais ne doivent pas laisser se figurer un ermite coupé du monde. Flaubert vit, rit et connaît le succès, aidé par le trio et le tapage de son premier roman, Madame Bovary, en 1857. Jugé et finalement relaxé pour atteindre aux bonnes mœurs, il y raconte la vie d'une femme étreinte par l'ennui petit bourgeois autant que le désir de le fuir, se réfugiant dans l'adultère et le consumérisme qui la mènera au suicide. Fort de ce premier succès, Flaubert fait partie du monde littéraire parisien. Il noue d'intenses amitiés avec des hommes et femmes de lettres, reçoit dans ses appartements de la capitale et participe aux salons à la mode. Il baigne en réalité dans le monde bourgeois oisif qu'il ne cessera de pourfendre. « J'appelle bourgeois quiconque pense bassement », dit-il. C'est que le bourgeois n'est pas à ses yeux le représentant d'une classe sociale, mais la figure d'un mode de vie, celui de la bêtise, de l'utilitarisme, de l'incompréhension des enjeux, des plaisirs ou des beautés du monde et surtout celle de l'art. Si Flaubert n'aime pas le bourgeois, il ne faut pas voir en lui un fervent démocrate défenseur du peuple, non. Non, il hait la masse et abhorre l'égalitarisme. Lors de la révolution populaire de février 1848, qui renverse la monarchie de juillet, Flaubert se rend à Paris, non pour participer au soulèvement, mais pour le voir en tant qu'artiste et romancier, simplement pour regarder le spectacle, à l'image toujours de son double, Frédéric Moreau, dans l'éducation sentimentale, témoin passif des mêmes événements, s'offrant un délicat dîner après avoir passé quelques heures à observer le peuple monter sur les barricades. Et si du temps de sa jeunesse, Flaubert pouvait être perçu comme un républicain, il s'accommodera très facilement de l'échec de la Deuxième République et du coup d'État menant au Second Empire, tout comme il s'accommodera plus tard de l'enracinement d'une Troisième République modérée. Il ne déteste rien de plus que le suffrage universel, la honte de l'esprit humain, écrit-il à sa grande amie George Sand, ajoutant « Je n'ai de sympathie pour aucun parti politique, ou pour mieux dire, je les exècre tous. » Comme si tout cela ne le concernait pas, comme s'il préférait observer et décrire le monde plutôt que d'avoir à le vivre. Flaubert rêve d'ailleurs. En mars 1857, il annonce « Je vais écrire un roman dont l'action se passera 3 siècles avant Jésus-Christ, car j'éprouve le besoin de sortir du monde moderne, où ma plume s'est trop trempée et qui d'ailleurs me fatigue autant à reproduire qu'il me dégoûte à voir. » Tout est dit. Ce roman, c'est Salammbô, fresque historique où les événements du passé se fondent dans les lumières d'un Orient voluptueux. Orient qu'il connaît bien. Il a examiné avec attention les ruines de Carthage en Tunisie, s'est savamment documenté, et avait aussi dans sa jeunesse traîné ses guêtres en Égypte, en Palestine ou en Syrie, l'ailleurs toujours qu'il soit géographique ou temporel, car comme il l'écrit à Louise Collet, sa maîtresse, « Le vrai n'est jamais dans le présent ». Mais un événement va cependant lui offrir l'occasion d'embrasser la concrétude de son temps. En effet, en 1870, l'armée prussienne envahit la France et assiège Paris. Cette attaque éveille en lui une fibre patriotique et Gustave Flaubert le sceptique s'enroule fougueusement dans la garde nationale. Il n'aura pas l'occasion de briller au combat ni de longtemps chanter les louanges de la France. La reddition, la débâcle de Sedan, la chute du Second Empire, l'épisode de la Commune de Paris, contre lequel il n'aura pas de mots assez durs, puis la Troisième République vont rapidement le dégoûter à nouveau de son époque. Passé cet épisode de civisme, il recommence dans sa correspondance à éructer contre tout. Les hommes politiques, le chemin de fer, l'industrie, le bourgeois bien sûr, la bêtise. Qu'on ne s'y trompe pas. Flaubert n'est pas bégueule lorsqu'il s'agit de jouir des bonnes choses de la vie. La littérature, la gastronomie, les lupanards de Paris ou d'ailleurs, les amis, les femmes bien sûr, les jeunes hommes aussi, dans cet Orient lointain où il voyagea. Il a bien entendu aimé passionnément, mais il a toujours considéré l'amour comme un assaisonnement de la vie, le mot est de lui, plutôt que comme son mets principal. Ses amitiés furent solides et dévouées, certainement plus que ses relations amoureuses d'ailleurs. L'écriture demeure son exutoire, et plutôt que de pester épistolairement contre son monde, il décide en 1872 d'exhaler sa colère autrement. « Je vomirai sur mes contemporains, dit-il, tout le dégoût qu'ils m'inspirent. Ce sera large et violent, et ce sera un roman, Bouvard et Pécuchet. L'histoire de deux hommes se retirant hors du monde pour s'intéresser à tout, de l'agriculture à l'architecture gothique, de la médecine au spiritisme, en voulant tout connaître et maîtriser, ils ne cessent de passer à côté. Ils n'entendent guère ce qu'ils apprennent et pontifient sur tout, en ne comprenant rien. Ils incarnent cette figure du bourgeois tant décriée et révèlent la bêtise des autres. Une encyclopédie de la bêtise humaine, comme devait le rappeler le sous-titre. Comme pour tous ses romans, Flaubert travaille sur le temps long, rassemble une impressionnante documentation et n'hésite pas à reconstruire chaque phrase, à interroger chaque mot et chaque sonorité. Mais le roman ne sera jamais achevé, comme si la bêtise humaine l'avait trop épuisé, en plus de problèmes financiers qui lui donnèrent beaucoup de soucis. Flaubert meurt en 1880 à 58 ans, seulement 10 jours après que ses amis aient organisé une dernière fête pour la Saint-Polycarpe, saint que Flaubert ne rejoindra jamais dans un au-delà auquel il ne croit pas. Car ses mots le disent mieux que les nôtres. Il n'y a pour moi dans le monde que les beaux vers, les phrases bien tournées, harmonieuses, chantantes, les beaux couchers de soleil, les clairs de lune, les tableaux colorés, les marbres antiques et les têtes accentuées. Au-delà, rien.
Europe 1, historiquement vôtre.